Moi, je suis un antifasciste militant. Je participe à différentes actions d'information et de riposte antifasciste. Je travaille par exemple avec la Horde, qui d'ailleurs, dans les jours qui viennent, va faire paraître un entretien avec un résumé complet de tout ce qui s'est passé. Si jamais certains veulent trouver des informations sur Internet, c'est sur la Horde qu'ils en trouveront le plus bientôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a observé un groupe identitaire européen avec différentes branches dans différents pays, armé un bateau, affrété plutôt un bateau au départ de Djibouti vers le bassin méditerranéen de façon à gêner les sauvetages de migrants en provenance de l'Afrique vers l'Italie. Et on est nombreux à s'être mobilisés contre ça, des centaines de personnes autour du bassin méditerranéen. Au départ, peu de personnes étaient informées. Et progressivement, grâce à ce travail de contre-information par rapport au silence des médias et aussi de mobilisation, on a réussi à provoquer une alerte en Égypte pour de façon à arrêter une première fois ce bateau, puis ensuite à Chypre, à Chypre du Nord, donc à Famagouste, où on a réussi à tenir une action de sabotage sur place concernant le bateau, dont je ne peux pas décrire plus parce que je suis en ce moment en procès sur cette affaire. Et également, on a réussi à faire poursuivre les dirigeants du bateau pour trafic d'êtres humains et aussi pour papiers non en règle par rapport à notamment pas mal de Tamouls, de Sri Lankais Tamouls qui étaient sur le bateau et qui ont témoigné qu'ils avaient payé 10 000 euros chacun pour faire ce voyage jusqu'en Italie alors qu'ils avaient été abandonnés à Chypre. On a essayé d'aider ces personnes. Le collectif Anepos qui organise ces films a versé de l'argent pour ces Tamouls là-bas sur place et leur a demandé de témoigner sur ce qui s'était passé. Et ensuite, l'étape suivante, c'est que, apparemment, sous la pression d'Erdogan, ces fascistes ont été libérés, ont pu repartir avec leur bateau, mais qui leur bateau, après un sabotage, avançait pas si vite. Il a perdu à peu près la moitié de sa vitesse de croisière. Et donc, il a cherché à très vite réparer ses soucis en trouvant un port sur son chemin. Et donc, évidemment, il a voulu éviter de rentrer dans les eaux territoriales grecques. Et la mer Égée est tellement remplie d'îles qu'il ne pouvait pas pénétrer celle-ci. Par conséquent, il est allé jusqu'au port de Yala Petra. Et au port de Yala Petra, ce sont nos compagnons antifascistes crétois. Moi, je suis crétois d'origine, mon père étant crète. Donc du coup, on a avec les copains d'Héraclio en particulier, d'un squad qui s'appelle Evangelismo à Héraclio, et du réseau antifasciste crétois, on a réussi à mobiliser pas mal de monde, et il y a même des vieux qui ont sorti leurs armes du grenier, et qui se sont mis le long de la mer en disant « si on le voit s'approcher ce bateau, on tire ». L'action antifasciste, les manifestations, etc., à Yala Petra, a permis d'occuper le port, et d'occuper en particulier le bureau des autorités portuaires de façon à le faire flancher et qu'il abandonne l'idée d'accueillir ce bateau. Donc il y a une forte mobilisation sur place. Ça a été la même chose ensuite en Sicile, puis au large de la Libye, puis finalement le bateau a décidé d'aller jusqu'en Tunisie. Après avoir récupéré quand même un chemin à Limassol, au large de Limassol, par le biais d'un petit bateau de sauvetage qui s'appelle Donia, ils ont récupéré à bord les principaux chefs identitaires, ceux qui me poursuivent en justice aujourd'hui. Et ils ont essayé de s'arrêter en Tunisie pour les mêmes raisons. Ils n'ont pas réussi ni à Zarzi ni à Sfax, grâce à la mobilisation antiraciste des pêcheurs essentiellement, mais aussi d'autres personnes. Et enfin, ils ont essayé de se replier vers Malte, parce qu'ils ont cru qu'avec une grosse croix, Malte devait être un territoire intégriste, réactionnaire, etc. Bon, c'est le cas de certains, mais pas de tout le monde. Il y a aussi des antifascistes à Malte, donc on les a mobilisés, on a travaillé en réseau, et ils ont réussi à bloquer ce bateau également à Malte. Finalement, les identitaires ont raté leur premier rendez-vous, conférence de presse qui était prévue à Lyon la première semaine, et finalement, ils ont abandonné complètement leur projet, et sont rentrés bredouille quelques temps plus tard via un aéroport en passant par les bâtiments publics pour fanfaronner un peu un dimanche matin quand il n'y avait personne. Mais en réalité, ça a été la Bérézina. Ils ont complètement échoué leur campagne qui visait à premièrement gêner les sauvetages de migrants, ce qui est véritablement pour moi la mise en danger de la vie d'autrui, quoi. C'est quelque chose qui normalement est illégal. Et en plus, c'était une campagne particulièrement raciste qui visait à une vision continentaliste, un fascisme non pas nationaliste mais continentaliste qui rappelle des heures noires de l'humanité et qui vise à comparer un peu les civilisations en prétextant que la civilisation aryenne, blanche, etc., est supérieure aux autres. Voilà, ils sont complètement dans un délire qui rappelle les heures noires. Et c'est pour ça que, comme à bord, il y avait plusieurs personnes qui ont un parcours à l'évidence fasciste, hein, et néo-nazi, qu'ils reconnaissent, notamment Martin Sellner, le chef des identitaires autrichiens, et d'autres, hein, Mario Müller également, qui fréquente les néo-nazis ukrainiens, etc. Du coup, je me suis permis de parler de croisière nazie, la croisière nazie s'amuse, les nazis ont en panne, etc. Et du coup, ils me poursuivent en justice, comme ils ne peuvent pas me poursuivre sur le reste, ils me poursuivent en justice sur le mot nazi, essentiellement, hein, quelques bricoles. Et donc moi, justement, mon bras de fer, c'est de montrer que le génération identitaire vient du bloc identitaire, qui vient lui-même d'unité radicale, qui s'est fondée sur l'idéologie de Saint-Loup, qui était le principal chef SS français, qui est vraiment la référence pour eux, même si c'est de l'occultisme. Ils ont énormément d'autres références. Leur symbole, c'est le symbole du delta spartiate sur l'Europe, un peu comme il y avait autrefois la croix gammée sur l'Europe. Ils ont pas mal de membres qui sont en lien avec la mouvance néo-nazie. Ils ont été financés pour leur campagne par les suprématistes blancs américains, par le Ku Klux Klan et par des néo-nazis très riches américains. L'un d'entre eux est allé à Charlottesville qui est peu après la mort de Heyer, la jeune antifasciste, pour aller rencontrer les organisateurs. Enfin bref, Sellner, il a été interdit d'entrer en Angleterre il y a même pas un mois. Le Royaume-Uni a considéré qu'il appartenait à une organisation terroriste néo-nazie. Donc voilà. Donc tous ces arguments-là sont de notre côté et c'est pour ça qu'on espère gagner ce procès. Donc le délibéré interviendra le 24 mai. Le 24 mai, on saura si on a gagné. Et si on a gagné, je pense qu'on arrivera à faire interdire, à faire dissoudre l'organisation Génération.
Tu reprends exactement la question que j'ai posée à la suite du film. C'est vraiment celle-là, moi, qui m'a le plus interpellée. J'avais lu aussi un article, moi je suis Emma pour la CIP, la Confédération des Intermittents et des Précaires de Gironde. J'avais lu un bel article dans Lundi Matin qui parlait de Louis Connas, voilà, de l'historique, de type d'action, de cette manière aussi de ne pas hiérarchiser, d'après ce que j'ai compris, les luttes, les manières en tout cas de lutter, de rassembler, mais en même temps avec un mode d'action qui peut paraître violent. Pour même au sein de nos luttes à nous, hein, on entend, ils sont violents, c'est les casseurs, etc. Et moi, au contraire, ça m'interpelle parce que je trouve que justement, ils font tout l'inverse, ils recollent des morceaux de ceux qui nous cassent à nous, en fait, en allant détruire ce qui nous détruit. Moi, personnellement, ça me reconstruit de savoir qu'on peut détruire ce qui me détruit. Voilà.
Et qu'on a, c'est une organisation anarchiste révolutionnaire. Pratique l'action directe, mais sans violence sur les personnes, sauf sur la défensive. En cela, ils se distinguent des habitudes anarchistes et révolutionnaires des années 70-80, que ce soit en Allemagne ou en France, même en Grèce. On a connu des groupes qui existent toujours pour certains, qui se sont appelés par exemple les conspirations des cellules de feu, qui se sont appelés aussi lutte révolutionnaire. On a des camarades anarchistes en prison de ces groupes-là, qui s'appellent par exemple Nikos Mazziotis ou encore Paula Lupa, qui ont d'ailleurs un petit garçon qu'on les a empêchés de voir à la suite d'une arrestation, qui a été mis dans un hôpital psychiatrique, et puis après qu'on a eu le plus grand mal à pouvoir faire confier à sa grand-mère. Ces personnes-là sont en prison et font régulièrement des grèves de la faim, même des grèves de la soif. Il faut savoir qu'il y a énormément de prisonniers politiques en Grèce de ces organisations-là et que les sanctions sont extrêmement lourdes en Grèce comme en Espagne. Par exemple, on peut cumuler des peines de prison pour aller à des peines de fausses prisons à durée limitée qui sont des véritables prisons, des peines de prison à durée à vie puisque la durée est trop, très très longue, quoi. Voilà. Et la démarche de Yorgos et d'autres membres de l'Ovekona, c'est une démarche un peu différente, en ce sens que l'action est un petit peu moins radicale sur ce plan-là, mais par contre est extrêmement efficace dans d'autres domaines, et se fait presque à visage découvert. Pas tout le temps, bien sûr, mais comme vous l'avez vu dans le film, c'est la première fois qu'ils intervenaient dans un film. C'est une démarche qui quand même est à mi-chemin entre ces formes traditionnelles et qui rappelle l'anarchisme du début du XXe siècle, par exemple, ou de la fin du XIXe siècle, avec, par exemple, en France, l'assassinat de Sadi Carnot, en 1896, je crois, par Casero, un jeune anarchiste italien. et ou encore l'attentat de Vaillant dans le Parlement, qui avait posé une bombe dans le Parlement pour venger justement la mort de Cazeru, ou je dis l'inverse, Cazeru qui avait vengé la mort de Vaillant, la guillotine de Vaillant, en assassinant Sadi Carnot. Et donc, du coup, cette tradition-là de frapper le pouvoir, hein, c'est la propagande par le fait, une des démarches de l'anarchisme qui est en complément de l'autogestion. Dans les années de Saint-Imier, de 1872, Bakounine qui divorce avec Marx par rapport à la vision plus ou moins autoritaire de la lutte pour le changement révolutionnaire, à cette époque-là, il y a la tentation anarchiste de l'autogestion et la tentation anarchiste de la propagande par le fait. Et en fait, aujourd'hui, en Grèce, on retrouve à la fois ces deux tentations principales, qui sont l'autogestion, qui est quand même la démarche principale du mouvement social en Grèce, vraiment de rompre avec l'attente, l'espoir la demande de miettes, alors que nous, on veut la boulangerie, quoi, hein, on veut s'organiser par nous-mêmes, et en même temps, le désir de frapper le pouvoir. Voilà, frapper le pouvoir. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, en frappant le pouvoir, on peut le frapper aussi d'une autre manière que physiquement, on peut le frapper symboliquement, on peut le frapper matériellement, et c'est déjà une forme importante, ce qui n'empêche pas forcément qu'un jour, en situation révolutionnaire, les choses puissent aller plus loin si le pouvoir refuse de céder. Parce que le pouvoir, il ne faut pas croire, il ne va pas nous faire de cadeaux. Déjà, il tue les gens. Il tue les gens parce qu'en le mettant en prison nos prisonniers politiques, il les tue. Il les tue, à petit feu, mais il les tue. Il les rend fous quelquefois. Le pouvoir, il tue des gens qui se suicident, il tue des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, il tue des familles qui n'arrivent pas à vivre ensemble et qui se déchirent à cause de leurs conditions de vie. Bref, le pouvoir est assassin, le pouvoir nous vole nos vies. Et donc le fait de vouloir voler la vie du pouvoir, déjà c'est une chose qui peut se discuter. Mais par contre, aujourd'hui en Grèce, il y a quand même cette idée très forte de frapper symboliquement, matériellement le pouvoir là où on le peut. Lovikonas est exemplaire dans ce domaine. Alors évidemment, Lovikonas, comme on parle beaucoup de ce groupe, forcément ça crée des jalousies quelquefois. J'avoue que dans le mouvement anarchiste et anti-autoritaire, en Grèce, il y a quelquefois des gens qui disent « Lovikonas est très bien, mais on ne voit que, on voit que Yorgos, on voit que tel et tel. » Voilà, c'est un peu beaucoup. Mais il suffit que d'autres le fassent aussi et il n'y aurait pas cette jalousie. Il suffit de plus s'impliquer les uns les autres. Alors, pour finir techniquement, Lovikonas, en fait, en général, c'est 10 à 12 personnes, 15 maximum, qui interviennent. Et il y a une rotation dans les personnes qui interviennent de façon à gérer aussi les problèmes de justice, de poursuite, etc. À ce jour, Yorgos, il est menacé par 40 procès et en tout plus de 50 mois de prison. Ça fait plusieurs fois qu'on arrive à lui payer sa caution de façon à lui éviter d'aller en prison. C'était plus radical, c'était donc plus sanctionné, voilà, c'est la conspiration des cellules de feu, lutte révolutionnaire, et beaucoup d'autres.
J'ai l'impression que ça change aussi, et c'est au moins ce que je disais aussi tout à l'heure pendant le débat du film, pourquoi ces groupes ou Vikonas a tellement du succès, hein, on peut dire, c'est parce que c'est au moins il fait des actions qui sont des actions qui concernent vraiment la base de la société, alors que, je peux dire, on avait plus ou moins l'image... avant Lovikonas, il y avait bien sûr des équipes qui pratiquaient l'action directe, mais qui majoritairement avaient des idées plus individualistes, plus nihilistes, et donc qui ne pouvaient pas être soutenues de cette manière que Lovikonas, le soutien que la société, une grande partie de la société montre à Lovikonas. Donc, selon moi, c'est vraiment le point clé, le point important. Et on peut le voir, on peut le voir facilement en regardant les actions de ces groupes. Et comme il disait dans le film, ils ne font pas cette sorte d'hiérarchie dans le sens où ils peuvent faire des actions, par exemple, de plus ou moins petites entreprises qui licencient des gens. Et, Après, juste un autre commentaire aussi sur... je ne sais pas si c'est de la jalousie ou pas, mais... Moi, je trouve, encore une fois, c'est pas une problématique, c'est peut-être un pari qui est, au lieu d'idéaliser Lovikonas, il faut plutôt diffuser l'action de Lovikonas. Au lieu de parler toujours à Lovikonas, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il faut plutôt peut-être.
Mille Lovikonas.
Pardon ?
Mille Lovikonas.
Oui, les diffuser à la fin.
Comment tu fais pour diffuser sans montrer ce que font un peu les gens, tu vois.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est que...
Faut pas trop idéaliser, considérer que c'est un truc à part entière, il faut le faire nous aussi, c'est ça que tu veux dire?
Oui, il faut pas qu'il reste un symbole, si tu veux. Mais je suis pas contre, c'est tout à fait...
Moi, c'est quand même beau de montrer l'élan de ces gens, tu vois. Moi, je pense que... Mais moi, je suis partisan, tu le vois dans mes films, moi, je suis partisan de montrer les visages de la lutte. Les visages qui sont nos amis, nos amours, nos frères et nos sœurs humains, quoi. C'est des gens. Mais moi, Yorgos, quand on se voit, on se serre fort dans les bras comme ça. Tu sais, il est vachement costaud, Yorgos, tu sais, il a une histoire. Et il se serre fort dans les bras, etc. Mais c'est des moments, tu vois. Moi, j'attends que ça, d'arriver à Vox, à la cape du Vox, qu'on se serre fort dans les bras les uns les autres. Et c'est pareil avec Costas de la cuisine sociale, qui n'arrête pas de dire Yannimou dans les interviews, je suis obligé de couper au sous-titrage. Tu vois, on s'aime beaucoup, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça, pour ça que je parle d'amour et de révolution. C'est, on a besoin de voir le visage humain de ceux qui luttent comme nous, ou d'une autre façon, et qui sont à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout du monde, au Kurdistan, au Rojava, à Afrin, au Chiapas ou ailleurs. Et on a besoin de se voir. Et c'est vrai que, on a tendance un peu à idéaliser les gens au Rojava, les filles en particulier qui luttent au Rojava. On a tendance à idéaliser Marcos ou d'autres au Chiapas. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas grave à partir du moment où ça nous donne un élan d'amour, un élan révolutionnaire. Tu vois? Mais par contre, ce n'est pas très grave si c'est des symboles, à mon avis, mais je me trompe peut-être, hein, à partir du moment où c'est des symboles qui montrent bien qu'ils ne sont pas un mégalo, ambitieux, qui ne veulent pas le pouvoir, qui ne veulent pas la notoriété, qui ne veulent pas l'argent, et qui simplement veulent encourager d'autres à faire pareil. Yorgos, quand il intervient dans le film, en fait, il dit, moi, tout ce que je veux, c'est que d'autres le fassent, qu'il y en ait plein d'autres qui le fassent. Nous, on veut travailler à nous rendre inutiles.
Voilà, non, mais c'était pas du tout une critique. C'est peut-être le pari, c'est vraiment pour nous tous et toutes, pour vraiment intégrer cette sorte de actions, peut-être.
Je voulais faire une petite remarque.
Alors, dans le film, vous voyez par exemple la destruction des fichiers de surendettés en Grèce. Vous voyez aussi une intervention de Louvikonas qui détruit les bureaux de privatisation du bien commun, qui à l'époque s'appelle le Taiped. Vous voyez Louvikonas bloquer les négociations à l'intérieur de l'hôtel Hilton entre les différentes parties de la Troïka avec le gouvernement grec. Vous voyez Louvikonas intervenir par exemple sur d'autres lieux qui sont symboliques du pouvoir. Et par exemple devant le Parlement, en arrivant à passer par la porte de derrière, et qui pose le problème des services de sécurité face à ces anarchistes qui courent dans tous les sens et qui sont complètement imprévisibles. Voilà, c'est ça l'action principale de Louvikonas. Dans le film, on voit aussi un autre groupe qui intervient, mais sur le plan de l'antifascisme, qui s'appelle Distomo, et qui mène aussi des actions extrêmement puissantes. D'ailleurs, il y a quelques membres qui sont en commun, en fait, entre Distomo et Louvikonas, qui sont essentiellement basés à Exarchia, bien sûr, et Distomo qui arrive à frapper jusqu'à Obdoré, à son siège, Obdoré qui se cache à l'intérieur de son siège, tellement ils ont peur de nos groupes antifascistes, en général en Grèce, en Thessalonique ou à Athènes, et en particulier qui ont peur de Distomo, qui porte le nom d'un village qui a été rasé par les nazis en Grèce durant la guerre de 40-45. Exarchia, le problème d'Exarchia, il est vieux. Hein. Exarchia, c'est un quartier qui est né au milieu du 19e siècle lors de la reconstruction d'Athènes. En fait, il faut savoir que Athènes était limitée sous l'Empire ottoman à 10-15 000 habitants, c'est-à-dire 10 fois moins que durant l'Antiquité, en raison de la stratégie politique vis-à-vis du symbole d'Athènes par l'occupant. À partir de la libération, qui n'a pas été vraiment une libération, il y avait un roi qui s'appelait le roi Othon, héritier du trône de Bavière, 15 ans, qui est resté au pouvoir entre 1832 et 1862 en Grèce. Mais durant cette période, on va dire que quand même Athènes a pu à nouveau se développer. Et lors de la reconstruction d'Athènes, la colline de Strephi, qui est la colline d'Exarchia, a servi de carrière à reconstruire le centre d'Athènes. Et donc, quand ce centre, est à peu près au milieu du 19e siècle, a atteint cette colline, du coup, ben, finalement, on l'a construite à son tour, on l'a terrassée, on a planté des arbres et tout. Et on s'est posé la question, mais qui va habiter sur cette colline? Alors, comme il y avait de la pente, on n'a pas mis des personnes âgées. Et comme c'était près des centres politiques, l'Avouli, le Parlement, et l'Acropole, de l'autre côté, le centre politique ancien, quoi. Par conséquent, on a plutôt mis les étudiants. Donc, c'est plutôt les écoles, grandes écoles, etc., qui ont été installées au pied ou autour de la colline de Strephi. Et c'est pour ça qu'Exarchia est devenu, à l'époque, un quartier estudiantin, essentiellement. Et forcément, qui dit étudiant, dit librairie, dit maison d'édition. Donc, les imprimeurs se sont installés là-bas à leur tour, un grand nombre d'imprimeries, la plupart aujourd'hui coopératives, hein, des SCOP, des coopératives ouvrières autogérées, et donc ce quartier est devenu un peu la jonction dans le mouvement social, si symbolique qu'il soit, entre les étudiants engagés et les ouvriers engagés qui ont toujours été les typos, quoi. Donc ça a aussi participé à l'histoire d'Exarchia. Exarchia porte son nom en raison d'un commerçant, à l'époque de l'exil insulaire, des gens qui venaient des Cyclades, qui venaient sur Athènes, un peu comme plus tard avec Smyrne, des gens ont créé un quartier qui s'appelle Nea Smyrne. Mais à l'époque, dans les années 1860-1870, ces gens des Cyclades sont venus en particulier sur cette colline, et il y en avait un d'entre eux qui s'appelait Exarchos, qui a annulé les dettes de ses clients les plus pauvres, tel Solon dans l'Antiquité, tel Patsypras par contre. Et donc du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le quartier, enfin la place d'abord triangulaire, une toute petite place triangulaire a porté son nom, puis par extension le quartier. Le quartier qui a une forme un peu particulière, qui ressemble un peu à la Syrie. Et il y a d'ailleurs des gens qui s'amusent à le surnommer Exarchiastan pour montrer que c'est une zone sans, hors de l'état de droit, etc. Comme si l'état apportait le droit, alors que le droit, au contraire, il est dans ce quartier où il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Bien sûr, le soir, le vendredi, le samedi, il y a des entraînements des plus jeunes qui s'entraînent un peu sur l'avenue Stournari ou ailleurs à apprendre à se servir de cocktails Molotov, mais c'est juste l'entraînement. C'est comme un entraînement de boxe, entraînement de foot, de basket, voilà, le vendredi soir, le samedi soir, il y a un entraînement Molotov, on le sait, quoi, c'est le quartier, c'est à l'ouest du quartier, près de l'avenue Patissonne, et puis de temps en temps, quand les jeunes sont un peu plus entraînés, on les amène de l'autre côté du quartier, du côté de Harela ou Tlikoupi, et là-bas, il y a le commissariat de police qui est juste à la limite du quartier, du coup, c'est la deuxième phase d'entraînement, il faut apprendre à attaquer le commissariat de police et le siège du PASOK, voilà, ça fait partie de la formation anarchiste et révolutionnaire à Exarchia. Donc ce quartier, c'est un quartier qui a ensuite évolué pendant le XXe siècle, qui a été un lieu de cache contre la dictature du général Metaxa, un lieu de cache contre l'occupant nazi, un lieu de cache sous la guerre civile, la dernière poche de résistance à Athènes. Et puisque tu posais la question, qu'est-ce qui risque de se passer si la droite arrive au pouvoir et qu'elle veut évacuer Exarchia, ben ça s'est déjà passé. En 1991, par exemple, le pouvoir a essayé de contrôler le quartier, il y avait des flics sans arrêt sur la place. Et très peu de temps après, ils n'étaient plus là et le quartier a à nouveau été repris en main. Récemment, il y a encore eu deux évacuations à Exarchia. Un squad qui s'appelle Zaimi et un autre qui s'appelle Garé, qui avait déjà été évacué quelque temps auparavant. Nous, on casse les cadenas deux jours après, on y retourne. Voilà, c'est pour ça qu'on ne met pas des choses de valeur dans ces squats et que les lieux où il y a des serveurs internet, des radios et tout ça sont plutôt de location. Par exemple, les lieux du mouvement anti-autoritaire, Alpha Kappa, mouvement anti-autoritaire pour la démocratie directe, eux sont plutôt de location, comme à Micropolis, comme à Nosotros, etc. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a du matériel, il y a beaucoup de projets lourds, on va dire, et du coup, ben, c'est une stratégie maintenant assez ancienne de la part de ce mouvement-là, de laisser de côté ce genre d'occupation, qui le fait aussi par ailleurs, il y a aussi des occupations par ce mouvement-là, mais qui, lui, veut éviter de se faire piller, comme ça a été le cas autrefois. Alpha Kappa, dans les années 2004-2005, a été pillé à plusieurs reprises dans des squats, et donc a choisi, pour les lieux où il y a le plus de matériel, d'utiliser la forme de la location. Donc ça coûte un peu cher, évidemment, à Micropolis, le loyer est très très cher à Thessalonique, mais elle arrive à fonctionner quand même, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans cet immeuble. C'est le plus grand espace social libre en Grèce, il est une location, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein. Mais bon, après, ce mouvement-là fait aussi des occupations, et le mouvement anarchiste en général préfère l'occupation, même s'il y a le problème de l'évacuation régulière. Pour finir, évacuation avec la droite. Oui, de toute façon, la gauche, c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est la tentative de gentrification. Des hommes d'affaires chinois qui avaient été invités par Tsipras à la dernière foire économique de Thessalonique, dont l'invité d'honneur était la Chine, ont, deux mois plus tard, acheté plus d'une centaine d'appartements qu'ils ont passés en Airbnb à Exarchia, de façon à faire monter la valeur locative. Le même but de faire un métro à Exarchia qui ne verra jamais le jour. On ne laissera jamais un métro s'installer. Ça aurait pour vocation de faire monter la valeur locative. C'est la gentrification, c'est la méthode qui a été utilisée contre la Commune de Paris en France. C'est la même méthode qui a été utilisée contre la Commune de Paris. On a utilisé quoi? On a utilisé beaucoup de choses, notamment la stratégie d'Haussmann à Paris au début du XXe siècle, l'urbanisation telle qu'on la connaît, avec le surcoût que ça a coûté. Puis on a connu, bien sûr, la guerre de 14-18 aussi. Donc on voit aussi l'atmosphère identitaire très rude. Et ne vous inquiétez pas trop, quand même, la dernière fois que le pouvoir s'attaque à Exarchia, c'était les colonels, et c'est les colonels qui sont
tombés. Peut-être quelque chose de supplémentaire, j'ai l'impression que la guerre contre Exarchia, pour le moment, c'est vraiment une guerre médiatique, et ça, ça ajoute à cette dévaluation entre guillemets de ces quartiers que chacun fait ce qu'il veut d'une manière dégénérée, alors que bon, moi j'ai pas vécu à Exarchia, peut-être il y a Yanis qui connaît mieux, mais d'après ce que j'ai vu moi, c'est plutôt l'autogestion à pratique au niveau du quartier. Et un autre point, encore une fois peut-être Yanis connaît mieux, j'ai l'impression qu'il y a aussi une guerre de par l'État à installer certaines sources mafieux ou pas, ou qui font du trafic. Et il y a aussi une lutte qui est très présente à Exarchia, au quartier d'Exarchia, par les habitants d'Exarchia, par des groupes qui agissent à Exarchia, contre ce trafic de drogue.
Ouais, il y a même une drogue qui s'appelle le crocodile et qui, à l'ouest d'Exarchia, près de l'avenue Patition, est distribuée presque gratuitement, à 2 euros plus exactement, près de l'école polytechnique, et qui fait l'objet d'une lutte terrible à Exarchia. D'ailleurs, il y a des polémiques à Exarchia sur savoir si on doit refuser ou pas les dealers, si on doit refuser les gens qui se droguent avec des drogues dures sur la place. Globalement, on est d'avis de vider même les gens qui se droguent avec des drogues dures sur la place, leur dire dehors, vous faites ça dehors, pas dans le quartier, vous donnez une mauvaise image du quartier. Bon, bien sûr, le hashish, la marijuana sont bien sûr autorisés à Exarchia. Par contre, tout ce qui est drogue dure, non. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans le quartier, on ne veut pas accepter cette image et cette mafia qu'il y a derrière aussi. Surtout que les crocodiles, c'est des drogues qui rendent les gens zombies. Ça rend les gens complètement avec une image stone, quoi, complètement. Et on voit bien que c'est une manipulation puisqu'on n'arrive pas à repousser les dealers quand on va vers Patition. Ils sont protégés par la police. Ce qui veut bien dire quand même quelque chose qui se passe. Pour finir, les alliances entre le pouvoir et la mafia en Grèce comme ailleurs, c'est quelque chose de très courant. D'ailleurs, le pouvoir est une mafia, on ne va pas se mentir. Hein. Et le fascisme aussi est une mafia. Et donc, en l'occurrence, la mafia à Exarchia a essayé à plusieurs reprises, il y a 2 ans en particulier, de renforcer sa présence et de repousser les lieux qui luttaient contre les drogues dures. Il y a eu plusieurs de nos camarades, y compris des gens qui sont autour de nos actions, qu'on connaît très bien, qui ont été poignardés à coups de poignard par la mafia. Et récemment, il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, il y a la devanture du Cavox qui a été frappée à coups de Molotov, Kalachnikov. Donc du coup, ce n'était trop. Le quartier en avait marre. Donc il a manifesté une nuit carrément avec des armes. Certains camarades ont manifesté avec des armes. Ça a fait un scandale en Grèce parce que ça avait été filmé par certains d'entre nous et ça avait été mis sur YouTube la nuit. En images, avec du floutage évidemment, ça a fait vraiment Exarchia, plein d'armes à Exarchia, tout ça, alors que des armes partout en Grèce. Moi je suis crétois, en Crète, il y a plein d'armes dans les greniers, quoi. Les fascistes, s'ils s'amusent à venir à nouveau faire du bateau au sud de la Crète, ils vont pas repartir, quoi. Donc du coup, cette image-là, ce rapport de force-là, c'est renforcé, c'est durci. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, le quartier a refusé la présence de la mafia de la façon suivante. Un jour d'été, l'année dernière, le chef de la mafia est venu jusqu'à la place Exarchia pour faire le malin. Il y avait des personnes qui avaient déjà été poignardées par lui par le passé, par ses hommes de main, et il a été assassiné par le mouvement social. Voilà. Le chef de la mafia a été assassiné tout près de la place Exarchia, par le mouvement social, par des membres du mouvement social, des anarchistes qu'on connaît. Voilà. Donc à Exarchia, on pratique l'autodéfense populaire. Et cette personne, il avait déjà mis en danger la vie d'autrui, essayé de tuer des gens. Il avait déjà essayé de tuer des gens, y compris que vous avez vu dans le film, au moins une personne. Et voilà, c'était trop. Ils avaient tiré à la Kalachnikov sur les devantures, donc voilà, c'est fini. Donc ça montre bien qu'Exarchia, attention, c'est pas la rigolade. Les gens sont prêts à aller très très loin. Et quand il y a des manifestations et que finalement le quartier est assiégé par les forces réactionnaires, les gens, à la fin, montent jusque sur les toits, les terrasses. Et si jamais la police rentre sur la place, c'est du jet de cocktails Molotov et de matériel, ouais, de vases aussi. Mais depuis les terrasses du centre d'Exarchia, donc ça fait que quand la police rentre sur la place, il faut qu'elle calcule toujours de rester 5 minutes. 5 minutes, ils se le disent entre eux, pas d'alerte. Il faut partir très très vite après. Et ensuite, tout simplement parce que la police peut se vanter d'arriver sur la place à la fin des manifs, mais elle sait très bien qu'elle peut être prise au piège elle-même par une foudre terrible du quartier, parce que les gens montent sur les toits un peu partout pour mener des actions. Alors, mon discours peut sembler violent, hein, mais je rappelle que tout ça, c'est de la défense, c'est de la légitime défense. Les gens qui ont réagi face à ce chef de la mafia, ce chef de la mafia, il a tué plein de gens. C'est un assassin. Il n'a jamais été poursuivi en justice, ou très peu. Plein de gens ont été poignardés par ces hommes et tout ça, mais d'autres ont été tués par ailleurs, dans d'autres circonstances. Et puis, la drogue dure aussi. C'est aussi la mort, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on attend de l'État quelque chose qu'il ne fait pas de toute façon? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la place? On laisse piétiner le quartier? Donc, le débat sur la violence et la non-violence, c'est un débat très délicat. Moi, je suis partisan de la non-violence. Complètement partisan de la non-violence. Complètement. Mais à condition qu'on soit dans une société non-violente. C'est-à-dire qu'on arrêtera d'être dans les inégalités sociales qu'on connaît aujourd'hui. Une société non-violente ne peut être qu'une société égalitaire.
D'abord, ce que je voulais dire, c'est que si j'ai participé au convoi du mois de novembre, c'est pas moi tout seul, c'était aussi toute une dynamique qu'il y a eu ensuite Gironde, avec des gens, justement, quand on parle de convergence des luttes, c'était exactement ça, des gens de plein d'organisations syndicales, la CGT, FSU, la CNT, et peut-être même de Solidaires aussi, je sais plus, enfin, c'est pas l'histoire de cloisonner, mais... Voilà, il y avait des gens du collectif Notre-Dame-des-Landes, il y avait des gens qui étaient sans étiquette, qui étaient juste là pour dire « Tiens, bah, là, ça, faut que je fasse quelque chose ». Et donc on s'est retrouvés à remplir ma camionnette, à aller jusque là-bas. L'impression que j'ai aussi là-bas, c'est aussi que, comment dire, qu'en partant on se dit « Viens, bah, on va amener de la solidarité là-bas ». Et en fait, moi j'ai l'impression d'avoir vachement reçu... des gens là-bas, comment ils s'organisent, parce que là, les gens qu'on voit dans le film, bah, y en a que j'ai côtoyé. Quand Yanis parle de Costas, bah, c'est pareil, c'est parce que je peux témoigner que c'est un mec, c'est un costaud, et quand il se serre dans les bras, bah, il ne fait pas semblant, quoi. Et puis effectivement, cette rencontre avec le squat de Notara, avec tous les enfants, les familles qui sont là-bas, où j'ai eu l'occasion de chanter la chanson. Je veux dire, c'est des gens qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient et puis qui arrivent sur le sol de l'Europe, où ils sont parqués dans des camps, dans des conditions dramatiques. Et là, ils se retrouvaient en fait pris en charge quelque part. Pris en charge, j'aime pas le mot, quoi, mais comment dire? Accompagnés, oui. Enfin, ils se retrouvent en lien avec le mouvement social, et là, ils se retrouvent dans des squats où ils sont, ils sont hébergés dans du dur, ils sont dans des logements chauffés, même si c'est bien beaucoup de précarité. Il y a des fois, il n'y a pas de cloison, c'est juste des draps pour séparer les champs, etc. Mais quand on est arrivé à Exarchia, le Notara, c'est le premier lieu où on a apporté les choses, du lait infantile, des couches. Des jouets pour les enfants, des denrées non périssables, de la lessive, plein de choses comme ça. Et les réfugiés, ils étaient dehors à nous attendre, quoi. Ils étaient dans la rue. Et ils sont dans un quartier où ils peuvent se promener librement dans la rue sans risquer d'être contrôlés par les flics. Il n'y a pas de flics. Ils peuvent se balader dans le quartier, ils ne sont pas emmerdés, quoi. Et déjà, d'un point de vue humain, de se dire je risque pas d'être contrôlé puis de me retrouver en camp de rétention parce que juste j'ai pris le bus ou parce que je me suis baladé dans la rue. Ben déjà, c'est énorme, quoi. Et puis voilà, j'ai aussi l'occasion de chanter ma chanson donc dans ce squat, une chanson qui parle des enfants. Et puis, là, je ne trouve plus mes mots. C'était trop d'émotion, et puis je la retrouve, cette émotion, complètement dans le film. Et voilà, il faudra aller voir le film quand il sera... Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller le voir quand il sortira, quand il sera sur YouTube.
D'accord.